on s'achemine tout doucement vers la conclusion de notre soirée. Donc, je vais donner la parole donc à Louis Besson, ancien ministre, président de la commission donc intergouvernementale pour le Lyon-Turin. Louis Besson revient donc à des territoires qui sont plus proches des nôtres, la vallée de la Maurienne, donc, et sur la finalité donc du Lyon-Turin. Merci Louis de prendre la parole et de nous exprimer donc les fondements de ta pensée.
Bien. Bonjour ou bonsoir à tous. On est depuis un moment dans
micro,
le
micro. Micro.
Pardon. Oui.
Près de la bouche.
Je salue tout le monde
et je voudrais dire que j'étais sensible à toutes les interventions, mais un petit bonus particulier pour la dernière. C'est que l'exemple suisse, il m'a valu des reproches quand j'y faisais référence à Paris. Parce que j'avais en face de moi des ingénieurs généraux qui me disaient « Mais vous, ministre de la France, vous venez nous dire qu'il y aurait quelque chose à retenir d'un petit pays comme la Suisse ?» Voilà, des castes imbues d'elles-mêmes qui expliquent que petit à petit, alors qu'on a eu le premier train qui ait traversé les Alpes, c'est celui sur lequel on a beaucoup insisté aujourd'hui, le tunnel Sarde. On va être les derniers à avoir un tunnel de base de la nouvelle génération, puisqu'effectivement, le Gotthard est ouvert depuis 2016, le Sénéry qui le complète a été ouvert il y a peu, mais déjà dès 2007, c'était le Lötschberg. Et normalement, le Brenner devrait y arriver entre 2026 et 2028. Bref, aujourd'hui, nous parlons 2030. Si nous tenons cette date, je crois que grâce à la compétence de TELT, le promoteur public que représente ici M. Darmandrail, nous avons des chances de tenir les délais. Mais pour ce qui est des accès, c'est une autre paire de manches. Or, après le tunnel de base, ici vous le savez bien, il faut enchaîner par le Glandon, Beldon, Chartreuse. Et si on additionne ces trois tunnels, c'est 56 km. Le tunnel de base en fait 57. Ça veut dire qu'il faut quasiment, en trois tunnels, refaire à peu près l'équivalent de celui qui est. Alors, je viens à mon propos, parce qu'autrement, on peut se laisser emporter. Et il faudrait, monsieur le président de Maurienne Patrimoine, que vous nous accordiez 48 heures au lieu de 2 heures. Hein, voilà.
Il reste 20 minutes.
Hein. Comment ?
Il reste 20 minutes.
Il reste 20 minutes. Eh bien, je vais essayer. Je vais essayer de tenir. Peut-être une petite allusion au rôle des présidents et au rôle des anniversaires. Le 19 juillet 1990 se fêtait à Chamonix les 25 ans du tunnel du Mont-Blanc. Alors, c'était un tunnel routier. Mais c'était déplacé deux présidents de la République, Mitterrand côté français, Saragat côté italien. Et le président français a conclu son propos en disant « Le Mont-Blanc est extrêmement utilisé, le Fréjus l'a quasiment rattrapé en termes de quantité de passages. » Vous, chers amis italiens, vous envisagez un troisième tunnel, mais, soyons réservés sur un troisième tunnel routier. Allons un peu regarder chez nos amis suisses, peut-être bien qu'il faut penser au ferroviaire. Voilà les propos du président de la République française le 19 juillet 1990. J'ai eu à beaucoup les rappeler, mais entraîner ce que représente la lourdeur des administrations centrales dans notre pays, c'est une sérieuse perte de temps. Je suis là pour vous dire que le Lyon-Turin va évidemment après tout ce passé et cette référence à la Suisse qui vient de nous être présentée, le Lyon-Turin va évidemment ouvrir une page nouvelle de l'histoire des traversées franco-italiennes, des traversées transalpines, et donc de l'histoire et de la Morbihelle et de la gare de Saint-Jean-de-Maurienne. Je voudrais rassurer sur la gare, je crois qu'effectivement il y a une solution en bois, mais c'est pour en souligner le caractère temporaire avant la gare définitive. Donc elle devrait être provisoire, précaire. Je pense que peut-être M. Bottineau sera rassuré. Je ne reviens pas, bien sûr, sur ce qui a été historique, et je passe d'entrée de jeu à ce projet qui est en chantier en Morienne, et je n'ai pas besoin de le souligner. Il a longtemps été souterrain entre Saint-Martin-la-Porte et la direction de Modane, la Frappe Modane, mais il a maintenant pris une toute autre dimension en se préoccupant du futur débouché du tunnel côté Saint-Julien. Et quand on arrive à Saint-Jean, on voit déjà le vaste chantier que représente le Lyon-Turin. C'est une étape, le chantier. Après, évidemment, ça aura une bien meilleure allure. Le Lyon-Turin, donc, il a une première traduction. La France a décidé de l'inscrire dans ses projets, très précisément le 14 mai 1991. C'était ce jour-là que se tenait un comité interministériel d'aménagement du territoire, que présidait le Premier ministre, et comme on m'avait demandé d'ajouter à mes responsabilités ministérielles du logement et de l'urbanisme les transports, j'ai eu la charge de présenter ce schéma et de le faire adopter. Alors, à ce schéma, j'ai fait quelques petits apports dans les mois qui ont précédé son adoption. C'est des petites lignes bleues qui prolongent les grandes lignes qui vont vers les pays voisins. Donc, celui qui regarde l'Angleterre, ce petit trait bleu, il est concrétisé par le tunnel sous la Manche. C'est pas un petit projet. Mais il y a aussi des petits traits bleus côté Belgique, côté Allemagne, côté Italie et côté Espagne. Alors, côté Italie, c'est nous, hein, bien sûr. On voit que de Lyon à Modane, on est en territoire métropolitain, mais la flèche bleue montre bien qu'on prolonge sur l'Italie. Je crois que la construction européenne rend nécessaire que ces réseaux de grandes infrastructures soient communs. Et d'ailleurs, l'Union européenne est tout à fait exemplaire dans le financement du Lyon-Turin. Sans l'Union européenne, il y aurait eu beaucoup, beaucoup de difficultés à réaliser le Lyon-Turin. Mais on pourra revenir sur le financement si ça vous intéresse. Donc, 14 mai 91, adoption de ce schéma. 7 novembre 91, je propose que je passe. Voilà. 7 novembre 91, c'est la conclusion d'une convention qui s'est préparée sur des années de travaux pour la protection des Alpes. C'est donc le 7 novembre 1991 qu'il y a un traité de protection des Alpes qui est signé, et ce traité retient le principe que pour protéger les Alpes, l'une des actions à conduire, c'est de remplacer les traversées alpines routières par des traversées alpines ferroviaires. À titre d'exemple, celle qui nous intéresse, j'ai vu une fois un calcul, peut-être faut-il le préciser, mais il est indiqué que le jour où ce tunnel sera en service et qu'il se substituera à une bonne partie des trafics routiers, des tunnels routiers, donc du Mont-Blanc et du Fréjus, mais aussi du passage côtier méditerranéen, Menton-Vatimille, vous connaissez, eh bien, on devrait à ce tunnel l'équivalent en économie de rejet de CO2 de ce que sont les émissions d'une agglomération urbaine de 300 000 habitants chaque année. Donc vous voyez que l'objectif écologique est tout à fait fondamental. puisque ce sont les rejets de CO2 qui, évidemment, détraquent tous les systèmes climatiques, comme vous le savez. Alors, ce qu'il faut peut-être dire sur ce traité du 7 novembre 1991, c'est qu'il a été précédé de plus de 2 ans de travaux entre des représentants de la France, de l'Italie, de l'Autriche, de la Slovénie, de la Suisse, aussi de l'Allemagne, un petit morceau des Alpes qui appartiennent à l'Allemagne. Et donc ces pays, après des années de travaux, avec un acteur dont je souhaite rappeler la mémoire, parce qu'il s'y est montré extrêmement actif et convaincant, c'était René Dumont, le père de la formation politique des écologistes d'aujourd'hui. Eh bien, ce traité, c'est lui qui est le père de toutes les traversées ferroviaires dont la nôtre va être la dernière. Je signale cela parce que l'actualité ne nous donne pas toujours des petits signaux de continuité dans les pensées. Donc, l'intérêt du traité du 7 novembre 1991, un traité de protection des Alpes, c'est qu'en préconisant ces remplacements de traversées routières par des traversées ferroviaires, ça nous donne cela au niveau des cartes à venir. Alors, comme cela vient de nous être présenté, le médecin Plomb, il est fait. Le Gotthard-Sénéry, il est fait. Vous les avez là bien lisibles. Le Brenner, il s'achèvera dans maintenant 5, 6, 7 ans au maximum. Et viendra en tout dernier le nôtre, le plus au sud, d'ailleurs celui qui fait la liaison sud-européenne du corridor dit méditerranéen, comme l'a intitulé Bruxelles, la Commission et sa direction générale des transports. Mais un deuxième traité, intervenu le 7 février 1992, et c'est sans doute, vous en avez peut-être. Oui, enfin, non, c'est pas ça. C'est celui-là, on va peut-être rester là. Le 7 février 1992, c'était sous la commission Delors. Hein. Delors a présidé la commission de 85 à 95. Il a voulu faire aboutir la monnaie unique. Il a voulu aussi faire aboutir l'idée de réseau unique pour les infrastructures, de manière à ce que les réseaux communs constituent un jour l'espace unique qui donne son sens à la monnaie unique. La monnaie unique n'étant pas par lui considérée comme pouvant remplir la totalité de ses fonctions si elle n'est pas dans un espace unique. Donc malheureusement, il y a un grand décalage de temps. La monnaie unique est intervenue, l'espace unique il se fait au fil du temps. Et ça risque de prendre encore peut-être des années. Alors, la perspective de l'espace unique européen, vous l'avez par des grands corridors. Alors, le corridor jaune, il a été intitulé Atlantique par Bruxelles. Le corridor vert, il a été intitulé Méditerranéen. Les autres, il y a le Baltique, etc. Mais les autres sont beaucoup plus denses parce qu'en fait, l'équipement ferroviaire de l'Europe centrale est beaucoup plus dense que ne l'étaient les équipements ferroviaires en ligne structurante française ou espagnole. Donc on a moins de corridors, mais on a quand même, avec les deux corridors qui nous concernent directement, l'Atlantique et le Méditerranéen, comme vous le voyez, des projets significatifs. Dont le Lyon-Turin. C'est donc une volonté de concrétiser cet espace unique, et ce qui vous est présenté là a été dénommé par Bruxelles Réseau Central Européen, RCE. Et donc, ce Réseau Central Européen inclut cette nouvelle génération de tunnels, dont on a une démonstration avec celui qui est en construction, par Telt, ici même, ce sont des tunnels dits de base, parce que l'objectif a été de trouver des itinéraires qualifiés de plaine pour traverser un massif comme le massif alpin. Alors, ce n'est pas tout à fait des lignes de plaine, mais ce sont quand même des lignes qui ne connaîtront pas des pentes supérieures à quelques 3%, et le plus souvent moins que cela, y compris pour traverser les Alpes. Et il est évident que ça implique de très longs tunnels, parce qu'on ne peut pas obtenir un tracé relativement plat si on ne résout pas le problème d'une traversée à très basse altitude pour parvenir à ce résultat. Alors, dans le cadre du tunnel, dans le cadre du corridor méditerranéen, vu par Bruxelles, il est repéré comme créant une relation performante entre ce qu'ils appellent maintenant des euroncités. Et sur ce parcours, les eurocités, ben c'est Milan côté Italie, c'est Lyon côté français, c'est Barcelone côté Espagne. Et voilà un peu la signification des tracés retenus avec cette prise en compte d'eurocités structurantes du futur territoire européen. Ce corridor méditerranéen, il débute à Kiev, il se termine à Gibraltar. C'est-à-dire qu'il a vocation à faire se rejoindre quasiment l'Afrique et l'Asie. Et donc, sur ce parcours, se trouvera la vallée de la Maurienne et Saint-Jean-de-Maurienne. Alors, je n'ai pas toujours le sentiment que beaucoup de nos concitoyens soient sensibles à cette dimension d'être partie prenante de lignes structurantes de l'avenir. Je voudrais vous citer une petite anecdote pour que vous sachiez que ça n'apparaît pas aux yeux de tout le monde comme marginal. À peine j'avais été nommé en charge du ministère des Transports, le maire de Grenoble m'a demandé, c'était à l'époque M. Carignon, il m'a demandé de recevoir son conseiller spécial qui était Haroun Taziev. J'ai donc reçu, bien sûr, Haroun Taziev. Il m'a dit, écoute, je le connaissais par ailleurs, il me dit, écoute, je viens te voir parce que à Grenoble, on pense que le maire de Chambéry va privilégier Chambéry alors qu'il nous faut un Lyon-Turin passant par Grenoble sous Briançon. Ah, alors je lui ai dit, écoute, Haroun, il n'y a pas de veto contre Grenoble. Mais pourquoi le tracé par la Maurienne a été retenu? C'est parce qu'on peut arriver à avoir un tunnel de base dont la longueur est déjà conséquente, mais qui ne dépassera pas 57 km 500. Je lui ai dit, j'ai demandé ce qu'il en saurait si on partait de Grenoble pour rejoindre la vallée de Suse. Nulle part on ne trouve de possibilité de faire un tunnel de moins de 100 km. Alors Haroun, tu as des compétences, si tu trouves une variante, dis-le-moi, on ouvrira le débat. Je n'ai plus jamais entendu parler ni du maire de Grenoble, ni de la route Taziev. Donc, vous voyez, les choses ont tenu à des données parfaitement objectives. Ce ne sont pas des données qui ont été en quoi que ce soit partisanes. Voilà. Nous allons pouvoir maintenant, si vous voulez bien, aborder dans cette perspective Saint-Jean-de-Maurienne. Saint-Jean-de-Maurienne, quelque part, vous le comprenez bien, sera une ville porte du tunnel. Les travaux en cours vous le démontrent tous les jours. Et ce tunnel, il est l'expression d'accords qui ont pu être conclus avec l'Italie. On ne peut rien faire au départ de la France qui débouche en Italie s'il n'y a pas à chaque étape un traité qui consacre l'accord obtenu dans les discussions entre les deux pays. Alors, le premier traité qui a permis que soit engagée la réalisation du Lyon-Turin, mais engagée au niveau des études, de faisabilité, etc., c'est un traité qui a été signé le 29 janvier 2001. Il a été signé à Turin. Et les premiers ministres s'étaient déplacés, les ministres des Transports également. 2001. En 2012, deuxième traité, cette fois c'est le 30 janvier, pas tout à fait l'anniversaire exact, mais le 30 janvier 2012, les deux pays conviennent des clés de répartition des coûts entre l'Italie et la France et de diverses autres modalités de mise en œuvre de ce grand projet. Et enfin, le 24 février 2015, nouvelle rencontre au plus haut niveau Italie-France et un troisième et dernier traité est signé le 24 février 2015 par lequel les deux pays ont décidé l'engagement des travaux. Ce ne sont plus les études. Donc quelque part, il y a eu ces trois dates, 2001, 2012, 2015. Alors ici, vous êtes bien placé pour savoir qu'en Vallée de Suse, il y a un petit peu moins d'adhésion au projet qu'en Vallée de Maurienne. Ça a entraîné des manifestations dont vous avez eu des échos. Disons les choses claires. Entre 2001 et 2012, il y a quelques 5 années perdues qui sont imputables au Val de Suse. On aurait pu, là, gagner. Bon, beaucoup disent on a perdu 15 ans. Non, c'est 5 ans. 5 ans. Mais c'est déjà pas mal. Il eût mieux valu ne pas les perdre. Nous aurions pu aboutir à peu près, peut-être 2 ou 3 ans, avant le Brenner, et on n'aurait pas été les derniers. Bon, avec ces 5 ans, on va être les derniers. Sur le chantier en cours, un mot pour que vous sachiez les conditions de son financement. Il a souvent été fait reproche à ceux qui défendaient le Lyon-Turin de défendre un projet entre guillemets pharaonique. Il n'est pas plus que tous les autres. Hein. C'est intéressant d'avoir cette carte. C'est pas une exception. C'est la nouvelle génération des ouvrages. Mais il y a des modalités de financement qui permettent effectivement d'aller. Je vous ai jamais fait passer aux images suivantes. Vous vouliez peut-être. Oui. Voilà, ça c'était une traduction du réseau central européen, vu notamment par des structures économiques lyonnaises, en montrant que, vous voyez, la section rouge, c'est ce qui fait défaut à Lyon pour avoir son ouverture à l'est, alors qu'il l'a au nord et au sud. Mais précisons les choses sur les questions de financement. Alors, c'est vrai que le Lyon-Turin, c'est une opération qui n'est pas d'un coût mineur. Mais l'Union européenne est en pleine cohérence avec sa volonté politique affirmée. Ce qui veut dire que non seulement elle a fait le réseau central européen qui était la précédente DERBO, on n'y revient pas, mais vous l'avez en tête, mais au-delà de ce réseau central européen, elle a décidé de mettre en place des financements à hauteur de 50% des coûts des lignes figurant sur ce réseau. C'est-à-dire que pour ce qui se fait en Maurienne, il y a 50% en provenance de Bruxelles. Ensuite, il y a eu une discussion entre la France et l'Italie. Alors, comme la presse ne rapportera pas mon propos, nous avons eu les adversaires du projet qui se sont dit « Ah, ça commence à avancer trop vite. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre l'Italie de notre côté en freinant ses ardeurs ?» Alors ils se sont dit « Comment on pourrait faire ?» Ben, on va demander à l'Italie de payer plus que la France. Et évidemment, l'Italie pouvait se demander pourquoi. Bon. Alors ils ont fait cette demande. Un manque de chance, l'Italie a dit oui. Et leur coup a été raté. Alors, de fait, les 50% qui ne sont pas couverts par l'Europe se répartissent entre 57,5% pris en compte par l'Italie et 42,5% par la France. Donc on a brisé la parité pour tenir. Alors c'est un intérêt pour la France, et l'Italie l'a accepté. Mais c'était dans l'esprit de ceux qui demandaient cela une toute autre idée et espérance. C'était l'espérance que ça fasse caler les choses alors qu'il fallait qu'elles aboutissent. Alors, nous, 42,5% de 50%, ça veut dire que pour le tunnel de base, la France paye 22,5% du coût. 22,5% du coût. Alors, je continue. Tout mettre sur la table. Vous êtes tous bien informés de ce que des chantiers, ça coûte. Là, on vient d'en parler, d'un qui n'est pas mineur. Mais un chantier, ça rapporte aussi aux caisses publiques. Comme vous le savez, les entreprises qui obtiennent les marchés sont soumises aux fiscalités des entreprises. Et le chantier, chacune des factures du chantier, induit des cotisations qui sont versées à l'UNEDIC, à l'URSSAF. Alors le tunnel de base franco-italien, il est à 80% en territoire français. Ce qui veut dire que la France paye 22,5% et recevra 80% des contributions des entreprises. Aussi bien pour la fiscalité que pour l'équilibre des régimes sociaux que sont l'UNEDIC et l'URSSAF. Comme vous le voyez, il n'y a pas de quoi cauchemarder sur les difficultés auxquelles on risque d'être confronté. Non seulement le chantier est bien parti, mais il se fait dans des conditions financières qui étaient inespérées au départ. Je crois qu'on peut, on peut employer ce terme. Voilà. Alors, bien évidemment, pendant la durée du chantier, les entreprises ne payent pas que l'URSSAF ou l'UNEDIC et ne payent pas de fiscalité qu'à l'État. Les entreprises en payent aussi aux collectivités locales, aux départements, à la région, aux communes traversées. À ma connaissance, ce n'est pas une ressource tout à fait marginale. Après le tunnel de base, je pense qu'on sera quand même relayé pour que s'enchaînent les tunnels du Glandon, Beldon et Chartreuse, eh bien la perspective, c'est à nouveau quelques 3 milliards d'euros de travaux. Si la sagesse prévalait et qu'une partie des retombées des chantiers allait vers la constitution d'un fonds de préparation de l'avenir, je crois qu'il y aurait là beaucoup de moyens disponibles pour financer l'imagination qui peut être celle de ceux qui réfléchissent à des perspectives de développement, en sachant qu'il ne s'agit pas du tout du développement pour le développement. Vous savez ce qu'il en est de la démographie morianaise. Il faut stopper le déclin, il faut un rebond. Ça ne viendra pas de la multiplication des giratoires, ça ne viendra pas de campagne d'effleurissement, si ça puisse-t-elle être, ça viendra d'initiatives concrètes facilitant l'attractivité du territoire et permettant d'espérer que, au-delà du service qu'il rendra au transport européen et au transport régionaux et franco-italiens, il y aura réellement une possibilité de préparer l'avenir dans des conditions fécondes. Mais là encore, j'en appelle à la responsabilité de chacun. La facilité, c'est de ne pas voir loin. Alors, merci de pouvoir y aider pour tous.
Merci beaucoup. Merci. Et l'action que tu as menée donc en accord avec cette pertinence.